Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel qui vous emmène au XVIIe siècle en compagnie de Jean de La Fontaine. Le loup, la chèvre et le chevreau. La bique, allant remplir sa traînante mamelle et paître l'herbe nouvelle, ferma sa porte au loquet, non sans dire à son biquet « Gardez-vous sur votre vie d'ouvrir que l'on ne vous dit pour enseigne et mot du guet, foin du loup et de sa race. » Comme elle disait ces mots, le loup de fortune passe et les recueille à propos et les garde en sa mémoire. La bique, comme on peut croire, n'avait pas vu le glouton. Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton et d'une voix papelarde, il demande qu'on ouvre en disant « Foin du loup !» Et croyant entrer tout d'un coup, le biquet soupçonneux par la vente regarde. « Montrez-moi patte blanche ou je n'ouvrirai point !» s'écria-t-il d'abord. Patte blanche est un point chez les loups comme on sait rarement en usage. Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage, comme il était venu, s'en retourna chez soi. Où serait le biquet? S'il eût ajouté foi au mot du guet que de fortune notre loup avait entendu. Deux sûretés valent mieux qu'une, et le trop en cela ne fut jamais perdu. L'avare qui a perdu son trésor. L'usage seulement fait la possession. Je demande à ces gens de qui la passion est d'entasser toujours, mettre somme sur somme. Quel avantage ils ont que n'est pas un autre homme. Diogène là-bas est aussi riche qu'eux, et l'avare ici-haut comme lui vit en gueux. L'homme au trésor caché qu'Ésope nous propose servira d'exemple à la chose. Ce malheureux attendait, pour jouir de son bien, une seconde vie. Ne possédait pas l'or, mais l'or le possédait. Il avait dans la terre une somme enfouie, son cœur avec, n'ayant autre déduit que d'y ruminer jour et nuit et rendre sa chevance à lui-même sacrée. Qu'il allât ou qu'il vînt, qu'il bût ou qu'il mangeât, on l'eût pris de bien court, à moins qu'il ne songeât à l'endroit où gisait cette somme enterrée. Il y fit tant de tours qu'un fossoyeur le vit, se douta du dépôt, l'enleva sans rien dire. Notre avare, un beau jour, ne trouva que le nid. Voilà mon homme aux pleurs, il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet s'écrit. C'est mon trésor que l'on m'a pris. Votre trésor, où pris? Tout joignant cette pierre. Et sommes-nous en temps de guerre pour la porter si loin? N'eussiez-vous pas mieux fait de le laisser chez vous, en votre cabinet, que de le changer de demeure? Vous auriez pu sans peine y puiser à toute heure. À toute heure? Bon Dieu, ne tient-il qu'à cela? L'argent vient-il comme il s'en va? Je n'y touchais jamais. Dites-moi donc de grâce, reprit l'hôte, pourquoi vous vous affligez tant, puisque vous ne touchiez jamais à cet argent? Mettez une pierre à la place, elle vous vaudra tout autant. de terre et le pot de fer. Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait que sage de garder le coin du feu, car il lui fallait si peu, que la moindre chose de son débris serait cause. Il n'en reviendrait morceau. « Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. » « Nous vous mettrons à couvert, repartit le pot de fer. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai, et du coup vous sauverai. » Cette offre le persuade. Pot de fer, son camarade, se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont à trois pieds, clopin, clopant, comme ils peuvent, l'un contre l'autre jeté au moindre hoquet qu'ils treuvent. Le pot de terre en souffre. Il n'eut pas fait 100 pas que par son compagnon il fut mis en éclat, sans qu'il eût lieu de se plaindre. Ne nous associons qu'avec nos égaux. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ. Dès qu'on aura fait loutre, creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. L'ours et les deux compagnons. Deux compagnons, pressés d'argent, à leur voisin fourreur, vendirent la peau d'un ours, encore vivant, mais qu'ils tueraient bientôt, du moins à ce qu'ils dirent. C'était le roi des ours au compte de ces gens. Le marchand, à sa peau, devait faire fortune, elle garantirait des froids les plus cuisants, on en pourrait fourrer plutôt deux robes qu'une. D'un de nous prisait moins ses moutons que leur ours. Leur, à leur compte, et non à celui de la bête. S'offrant de la livrer au plus tard dans 2 jours, ils conviennent du prix et se mettent en quête, trouvent l'ours, qui s'avance et vient vers eux au trot. Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre. Le marché ne tint pas, il fallut le résoudre. D'intérêt contre l'ours, on n'en dit pas un mot. L'un des deux compagnons grimpe au faîte d'un arbre, l'autre, plus froid que n'est un marbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent, ayant quelque part ouï dire que l'ours s'acharne peu souvent sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire. Seigneur ours, comme un sot, donna dans ce panneau. Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie. Et de peur de supercherie, le tourne, le retourne, approche son museau, flaire au passage de la laine. « C'est, dit-il, un cadavre. Ôtons-nous, car il sent. » À ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine. L'un de nos deux marchands, de son arbre descend, court à son compagnon, lui dit que c'est merveille, qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal. « Eh bien, ajouta-t-il, la peau de l'animal. Mais que t'a-t-il dit à l'oreille ? Car il s'approchait de bien près, te retournant avec sa serre. » Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours, qu'on ne l'ait mis par terre. Le cochet, le chat et le souriceau. Un souriceau tout jeune et qui n'avait rien vu fut presque pris au dépourvu. Voici comme il conta l'aventure à sa mère. J'avais franchi les monts qui bornent cet état et trottais comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux. L'un doux, bénin et gracieux, et l'autre, turbulent et plein d'inquiétude, il a la voix perçante et rude, sur la tête un morceau de chair, une sorte de bras dont il s'élève en l'air, comme pour prendre sa volée, la queue en panache étalée. Or, c'était un cocher dont notre souriceau fit à sa mère le tableau, comme d'un animal venu de l'Amérique. Il se battait, dit-il, les flancs avec ses bras, faisant tel bruit et tel fracas, que moi, qui, grâce au Dieu, de courage me pique, on ait pris la fuite de peur, le maudissant de très bon cœur. Sans lui, j'aurais fait connaissance avec cet animal qui m'a semblé si doux. Il est velouté comme nous, marqueté, longue queue, une humble contenance, un modeste regard, et pourtant l'œil luisant. Je le crois fort sympathisant avec messieurs les rats, car il a des oreilles en figure aux nôtres pareilles. Je l'allais aborder, quand d'un son plein d'éclat, l'autre m'a fait prendre la fuite. « Mon fils, dit la souris, ce Doucet est un chat qui, sous son minois hypocrite, contre toute ta parenté d'un malin vouloir est porté. L'autre animal, tout au contraire, bien éloigné de nous mal faire, servira quelque jour peut-être à nos repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'il fonde sa cuisine. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger les gens sur la mine. »